Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Nouvelle baisse de la mortalité routière en 2011. Il s'agit du plus faible total de victimes depuis 1990. Un nouveau parti politique tchèque a été fondé pour défendre les intérêts des Roms. En tennis, battu en demi-finale de l'Open de Sydney, Petra Kvitova ne devient pas encore le numéro 1 mondial. 707 personnes sont mortes sur les routes en République tchèque en 2011. Il s'agit d'une baisse de 6% par rapport à 2010 et du total le plus faible depuis 1990. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par la police en charge de la sécurité routière. Par ailleurs, un peu plus de 75 000 accidents ont été recensés par la police, soit là aussi le deuxième bilan le plus positif de ces 21 dernières années. 7,5% de l'ensemble de ces accidents ont été causés par des automobilistes en état d'ébriété. 89 personnes sont mortes suite à ces accidents, soit environ 13% du nombre total de victimes. L'année la plus noire sur les routes tchèques reste 1994 avec plus de 1400 morts. Le ministre de l'Intérieur a enregistré en décembre dernier un nouveau parti politique dont l'objectif sera de défendre les intérêts de minorités roms et des autres groupes sociaux défavorisés. Ce nouveau parti a été baptisé Parti de l'égalité des chances, Strana rovnih příležitostí, et ses fondateurs achèvent actuellement son programme. L'information a été communiquée ce jeudi par le site internet tiden.cz. Les responsables du parti entendent participer aux élections régionales à l'automne prochain. En 2011, près de 218 000 employés étrangers et quelques 93 000 entrepreneurs d'origine étrangère ont été recensés en République tchèque. Par rapport à la fin de 2010, le nombre d'employés étrangers a ainsi augmenté de 2500. Le nombre d'hommes d'affaires d'origine étrangère, qui est en progression depuis 2004, a augmenté en 2011 de 2100 par rapport à l'année précédente. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Parmi les employés étrangers en République tchèque, les Slovaques, les Ukrainiens et les Polonais sont les plus nombreux. Quant aux entrepreneurs étrangers, ce sont les Ukrainiens qui sont majoritaires, avec environ 36 000 détenteurs ukrainiens d'une licence professionnelle délivrée par les autorités tchèques. Ils sont suivis des Vietnamiens et des Slovaques. L'Église catholique tchèque envisage d'ouvrir davantage son patrimoine historique au public, la majorité d'églises du pays étant accessible uniquement le dimanche et lors des offices religieux. Une information publiée ce jeudi par l'archevêque de Prague, Domenik Duka. Ce dernier a précisé que la forme concrète de ce projet, auquel devraient également collaborer le ministère de la Culture et la police tchèque, était encore à définir. Un séminaire consacré au tourisme religieux s'est tenu ce jeudi à Brno, dans son cadre les représentants de la région de Zlín en Moravie du Sud ont présenté les résultats positifs du projet Les Portes Ouvertes, axé justement sur la découverte des sites religieux de la région. Ce projet a permis d'ouvrir une vingtaine d'églises au public. En 2011, elles ont été visitées par 95 000 personnes. La mairie de Prague a annoncé qu'elle allait baptiser la future bibliothèque du quartier Pajol dans le 18e arrondissement du nom de Václav Havel. Lors de ses vœux du début d'année, jeudi dernier, le maire Bertrand Delanoë avait déclaré qu'il souhaitait honorer l'ancien président tchèque, je cite, « l'un des plus grands artistes, l'un des plus grands hommes d'État et l'un des plus beaux combattants de la liberté ». Actuellement en chantier, la bibliothèque sera ouverte au public en 2013 et devrait proposer plus de 30 000 ouvrages aux Parisiens. Petra Kvitova devra encore patienter et ne deviendra pas encore nouvelle numéro 1 mondiale en fin de semaine. La Tchèque, actuelle deuxième meilleure joueuse mondiale, a en effet été battue par la Chinoise Nali, cinquième mondiale, en 3-7, 6-1, 5-7, 2-6, jeudi en demi-finale de l'Open de Sydney. Seule une victoire finale dans le tournoi aurait permis à Kvitova de succéder à la Danoise Caroline Wozniacki en tête du classement établi par la WTA, la Fédération internationale de tennis féminin. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Edita, le temps en République tchèque sera variable avec des chutes de neige sur la majeure partie du territoire. Les températures oscilleront entre 0 et 4 degrés pour les maximales. La météo signale un risque de verglas vendredi et samedi. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Rosinkova. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobriden, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figurent deux grands thèmes, avec tout d'abord la menace du ministre des Affaires étrangères de quitter la coalition gouvernementale si la République tchèque décidait de ne pas signer le pacte budgétaire européen, un nouvel accord intergouvernemental, rappelons-le, sur la discipline budgétaire au sein de la zone euro qui doit contribuer à faire face à la crise de la dette. Le deuxième thème est lui aussi politique. Le ministère de l'Environnement a obtenu un accord sur l'évolution des cadres juridiques du parc national de la Chomova. Et puis, comme tous les 15 jours, la seconde partie de notre programme sera consacrée au tourisme. Cette fois, nous vous emmenons à la découverte du musée de Bohême du Nord. Il se trouve à Liberec. Et c'est là que se trouve l'une des plus importantes collections de tapisseries en République tchèque. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé, on commence donc avec de la politique. Alors que le président du Conseil européen a déclaré lundi espérer finaliser les discussions politiques sur le pacte budgétaire européen d'ici fin janvier, le gouvernement tchèque continue d'hésiter sur la position à adopter. La question de savoir si la République tchèque signera ce nouveau traité européen, traité qui doit aider la zone euro à sortir de la crise de la dette, reste donc en suspense. Cette incertitude irrite le ministre des Affaires étrangères qui a menacé de quitter la coalition gouvernementale si la République tchèque décidait de ne pas abandonner sa souveraineté budgétaire.
Česká republika se nesmí a nemůže izolovat v Evropě.
En affirmant déjà à la fin de l'année dernière que la République tchèque, je cite, ne peut pas se permettre de rester isolée en Europe, Karel Schwarzenberg avait été le premier membre d'un gouvernement divisé à se prononcer clairement et publiquement en faveur d'une contribution tchèque au plan de sauvetage de la zone euro. Un mois plus tard, alors que les choses n'ont guère évolué, le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi le leader du parti Top 09, une des trois formations de la coalition, a une nouvelle fois confirmé sa conviction dans un entretien publié ce jeudi par le quotidien Lidové Noviny. Karel Schwarzenberg menace désormais de quitter le gouvernement si la République tchèque n'intègre pas sans condition la nouvelle union budgétaire européenne devant permettre à la zone euro de sortir de la crise de la dette et si elle n'abandonne pas sa souveraineté budgétaire pour la transférer vers les institutions européennes. Je ne siégerai pas, je cite, dans un gouvernement menant la République tchèque en dehors du principal courant d'intégration européenne. Être à la table et participer aux décisions fondamentales qui nous influenceront fortement et pour nous d'un intérêt vital. Fin de citation, a notamment déclaré dans le journal Karel Schwarzenberg, qui a en outre rappelé que l'économie tchèque était complètement dépendante de l'Union européenne, qui absorbe 80% de sa production. Le gouvernement tchèque, hésitant donc, ne dispose plus que de peu de temps pour se décider. Lundi, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le président français, Nicolas Sarkozy, ont fait savoir que le pacte budgétaire devrait être finalisé d'ici à fin janvier pour être signé début mars. En attendant, cette affaire constitue la seconde crise au sein de la coalition gouvernementale en l'espace de quelques jours. En début de semaine, le parti Affaires publiques avait remis en cause son unité en refusant tout d'abord d'approuver le projet de restitution des biens confisqués par l'État sous le régime communiste aux églises du pays. Finalement, le projet a bien été approuvé mercredi. Cette fois toutefois, les choses pourraient se passer un peu différemment dans cette affaire européenne, comme s'en est exaspéré le président Václav Klaus. On l'écoute.
Tout cela me gêne beaucoup et je pense ne pas être le seul. Des thèmes comme la restitution des biens aux églises d'un côté et le nouveau bouleversement radical et révolutionnaire dans l'Union européenne en matière d'union fiscale d'un autre côté sont bien entendu des thèmes compliqués qui peuvent mener à des différends. Mais je pense que ces différends doivent être normaux, cultivés et standards. En tant que président de la République, je ne peux pas m'accommoder du fait qu'en espace de 2 jours et demi, un parti politique menace de quitter la coalition. D'abord, si tous les partis de la coalition ne sont pas d'accord avec la restitution des biens aux églises, ensuite, si ce traité européen n'est pas signé. On ne peut pas faire de la politique de cette façon. Je pense qu'il est nécessaire de le faire très clairement savoir au parti Top 09 et à M. Schwarzenberg en particulier.
Opposé au pacte budgétaire européen, le président tchèque a déjà envoyé une lettre au Premier ministre Petr Nečas dans laquelle il l'a averti qu'il ne signerait en aucun cas ce nouveau texte. Le chef du gouvernement ne se lui est pas encore clairement prononcé sur le sujet. Petr Nečas s'est pour l'heure contenté d'affirmer que si les conditions n'étaient pas acceptables pour la République tchèque, celle-ci pourrait très bien se ranger aux côtés de la Grande-Bretagne qui a refusé, rappelons-le, de se joindre à la solidarité européenne lors du sommet de décembre. On continue toujours avec de la politique. Le ministre de l'Environnement, Tomáš Chalupa du parti ODS, vient d'obtenir un accord sur l'évolution des cadres juridiques du parc national de la Šumava, un parc qui se trouve en Bohême du Sud. Durant le mois d'octobre, les tables rondes se sont succédées afin d'obtenir un compromis acceptable pour les représentants du ministère, la direction du parc et les associations écologiques. Plus de précisions sur le sujet avec Paul Bauer.
Situé dans le sud de la région de Plzeň et dans la Bohême du Sud, aux frontières entre la République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne, le parc national de la Šumava est l'une des plus importantes zones forestières d'Europe centrale. Le paysage naturel a très peu évolué depuis le transfert des populations allemandes qui vivaient dans cette région et la présence de la zone interdite le long du rideau de fer. Ces éléments tragiques de l'histoire de la région ont contribué à la richesse du patrimoine naturel du parc et à l'agacement des représentants locaux qui ont vu une partie de la propriété communale gelée par les statuts de la zone protégée. Depuis sa création en 1991, les responsables municipaux battent en effet le fer avec la direction du parc et les militants écologiques afin d'obtenir un assouplissement des règles régissant le droit d'exploitation et une extension de la zone d'intervention dans le parc. Si l'accord obtenu mercredi 11 janvier à la suite d'âpres négociations ne devrait donc pas satisfaire pleinement les différentes parties, selon le ministre de l'Environnement Tomáš Chalupa, il constitue après de nombreuses années de conflits une avancée significative sur la voie du dialogue entre les représentants locaux, les militants écologiques et les responsables du parc.
Je ne pense pas que ceux qui ont siégé lors des négociations jusqu'à 11 heures du soir ont l'impression de tout avoir gagné. Ils doivent avoir l'impression qu'ils auraient pu obtenir plus et convaincre davantage les autres membres présents. Mais vous savez, trois jours après mon arrivée au ministère l'an dernier, je me suis rendu dans la Šumava. Je ne me rendais pas compte que les fossés entre les différents intérêts étaient si profonds. Les gens étaient incapables de s'asseoir autour de la table, de discuter ensemble, et lorsqu'ils se voyaient, ils en venaient souvent aux mains. Depuis le mois d'octobre dernier, mais avec une pause en décembre, ils se sont assis autour d'une table et ont cherché un compromis.
La pomme de discorde portait principalement sur la définition des catégories et l'étendue des différentes zones de l'espace protégé. Les responsables municipaux souhaitaient pouvoir intervenir davantage au sein du parc, tandis que les associations écologiques et les responsables du parc voulaient maintenir l'interdiction des activités humaines au sein des espaces protégés. Loin d'avoir répondu pleinement aux attentes de chacun, le ministre se félicite pourtant d'inscrire dans la loi l'étendue, les statuts et les limites des zones d'intervention, ce qui devrait mettre un terme à 20 années de discorde.
Ce qui est apparu hier comme un résultat ne signifie pas que tout le monde soit d'accord ou enthousiaste, mais qu'un compromis a été trouvé. Tout sera aménagé par la loi. Il ne sera plus possible de changer l'étendue des zones selon les décrets de quelques ministres que ce soit. Ce sera désormais défini par une loi claire. Les changements ultérieurs devront être validés par l'ensemble du gouvernement et non selon les amendements d'un ministre tel que cela s'est très souvent passé depuis 20 ans.
La nouvelle législation délimitera désormais très précisément les espaces dans lesquels les acteurs locaux pourront intervenir et devrait renforcer l'efficacité de la direction du parc en réduisant de plus d'un tiers le nombre des membres du conseil du parc.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée comme tous les 15 jours au tourisme et dans le magazine touristique aujourd'hui. Magdalena Rosinkova et le conservateur du musée de Bohême du Nord qui se trouve à Liberec vous feront découvrir l'une des plus importantes collections de tapisseries en République tchèque. Il s'agit là d'une rediffusion de la rubrique du 24 mars 2011.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Severočeské muzeum v Liberci bylo založené v roce 1873.
Le musée de Bohème du Nord de Liberec a été fondé en 1873 en tant que premier musée des arts décoratifs dans le pays tchèque. Ce n'était pas un hasard. La région de Liberec a une très forte tradition de l'industrie textile et verrière. C'était une des régions les plus développées dans l'Empire austro-hongrois. Les fondateurs de ce musée se sont inspirés du Victoria and Albert Museum ou du musée de Vienne.
Victoria Albert Muzea nebo vídeňského vzniklo i tady toto muzeum.
Bonjour, nous nous trouvons donc avec Oldřich Palata au musée de Bohème du Nord de Liberec, qui fait figure de plus ancien musée des arts décoratifs en République tchèque. Il abrite plus de 30 000 objets d'art en provenance du monde entier. La majeure partie de ces objets précieux sont évidemment cachés aux yeux du public et constituent les réserves du musée. Ce dernier siège dans un splendide bâtiment qui a été construit en 18 mois seulement à la fin du 19e siècle dans un style romantique historisant. Le musée abrite notamment une des plus importantes collections de tapisseries en République tchèque. Le conservateur du musée Oldřich Palata nous en dit plus.
L'histoire de cette collection remonte à 1884, où la comtesse Mathilde Klamgalas fit don au musée de la première tapisserie. C'était une tapisserie de Bruxelles, très ancienne. Il faut dire qu'elle était dans un mauvais état. Lorsque nous l'avons voulu restaurer, il s'est avéré qu'il y manquait une grande partie. Mais c'est un joli début. Nous avons donc des tapisseries qui datent de l'époque gothique, de la Renaissance, des œuvres provenant des ateliers de Bruxelles, d'Amiens et d'Aubusson. Toutes les tapisseries que nous exposons ont été restaurées.
Všechny tapisserie, které jsou u nás vystavené v expozici, jsou zrestaurované.
La plus ancienne tapisserie dont dispose le musée de Liberec fait partie d'une exposition permanente. Il s'agit d'une tapisserie wallonne créée en 1520 à Tournai et qui représente une scène de bataille.
Cette œuvre faisait partie d'un grand cycle de tapisseries. Elle est très intéressante. Nous avons découvert qu'elle était composée de 16 parties différentes sans que le spectateur s'en aperçoive. Nous pourrions en fait comparer la tapisserie à une bande dessinée. À l'époque, elles avaient la même fonction, raconter une histoire en série. Il se fait que dans le passé, quelqu'un a voulu restaurer cette ancienne tapisserie et comme il manquait des bouts de tissu, on les a remplacés par les éléments d'une autre tapisserie qui devait avoir la même histoire et on avait utilisé les mêmes couleurs et le même matériel. Le sujet n'était pas le même, mais les spectateurs ne le voient pas.
En 1911, la tapisserie en question a été restaurée à Vratislavice, près de Liberec, dans le plus ancien atelier de tapisserie sur le territoire tchèque, recherché par exemple par le peintre Alfons Mucha. Or, les tapissiers ont à l'époque utilisé des couleurs synthétiques, mais finalement beaucoup moins stables que les colorants originaux aux extraits végétaux. La tapisserie vieille de 500 ans a donc nécessité une autre restauration, effectuée en 1971, dans les ateliers de la Galerie nationale de Prague, et au cours de laquelle on a découvert qu'il s'agissait en réalité d'un puzzle habilement composé, Oldřich Palata.
Když se podíváte na tu hlavu toho Bělouše, tak najednou víte, že to už není gotická kompozice, že ta vyvrácená.
Vous voyez la tête de ce cheval blanc? Elle ne correspond pas à la composition gothique d'un tableau, elle a été ajoutée plus tard. De même, le nombre de jambes ne correspond pas au nombre de chevaux, mais les visiteurs ne le savent pas, ils ne leur viendraient pas à l'esprit de les compter. Donc cette œuvre démontre que la tapisserie était jadis créée en série, ce qui a permis de telles modifications.
Že je to zajímavý doklad toho, jak se tapisserie tkaly v sérii.
Vous pouvez voir au musée des arts décoratifs de Liberec également des tapisseries modernes de plusieurs auteurs, dont Eva Brodská ou Bohdan Mrázek. Dans la même salle sont exposés des objets en verre, œuvres des verriers tchèques renommés, à savoir Stanislav Libenský, Jaroslava Brichtová ou les époux Roubíček. L'art verrier et l'art textile étaient en quelque sorte une vitrine de la culture tchécoslovaque sous le communisme. Oldřich Palata.
Lorsque la Tchécoslovaquie signait un accord de coopération culturelle avec un pays exotique, on y organisait obligatoirement une exposition du verre et de la tapisserie, parfois aussi de la céramique tchécoslovaque. C'était en fait les meilleurs exemples de la création d'auteurs. Ce qui ne passait pas au niveau de la censure dans la peinture ou dans la sculpture était accepté dans les arts verriers et textiles. Les autorités communistes n'étaient pas aussi vigilantes dans le domaine des arts appliqués, ce qui donnait aux artistes une certaine liberté d'expression.
À partir des années 50 jusqu'à la chute du communisme, les tapissiers tchèques expérimentent différents matériaux et différentes techniques. Ils utilisent par exemple le sisal, une fibre très résistante. Le plasticien Bohdan Mrázek crée pour le château de Duchcov une tapisserie inspirée de Giacomo Casanova et faite à partir de collants transparents. Après la chute de l'ancien régime, de nombreux artistes tchèques se sont détournés de la tapisserie. Oldřich Palata explique.
Avant
1989, il existait une obligation. Une partie du budget pour la construction d'un nouveau bâtiment public devait être investie dans la décoration artistique de l'édifice. C'était généralement 3% du budget, parfois plus. Les artistes choisis par les architectes pouvaient donc vivre de ces commandes publiques. Après la Révolution, la situation a dramatiquement changé. L'industrie verrière traverse aussi une crise, mais elle ne concerne pas la création d'auteurs. Les verriers tchèques sont toujours très demandés à l'étranger, surtout aux États-Unis et au Japon. Mais la tapisserie est un genre spécifique. C'est un travail long et physiquement exigeant. Je ne connais que 3 ou 4 tapissiers qui continuent à travailler parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et parce qu'ils se sont procuré le matériel encore dans les années précédentes. Mais faire de la tapisserie pour soi-même, c'est vraiment du luxe.
Le musée des arts décoratifs de Liberec se trouve rue Masarykova, à proximité du centre-ville. Vous pouvez y visiter aussi de riches collections de verres tchèques et français. Vous y verrez par exemple les fameuses lampes de la marque Tiffany. D'ailleurs, la première exposition de cet artiste en Europe centrale a eu lieu justement au château de Liberec. Plus de détails sur le site web du musée www.museumlb.cz.
Voilà, on arrive déjà malheureusement au terme du bloc actualité préparé par toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en français de Radio Prague. Ahoy !